Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Gisèle Cage pour les journaux.
Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre sur Radio Kapi pour votre rendez-vous avec l'actualité. Nous sommes vendredi matin et voici les principaux titres qui dominent l'actualité aujourd'hui. Sud Kivu sous tension, Kacheke frappé par de nouveaux affrontements, 4 civils tués dans des combats entre le M23 et le Wazalendo du MDLC à la frontière entre Kabare et Kalehe, une situation sécuritaire qui continue d'inquiéter les habitants. Investissement minier en RDC, Crispin Bindoulé se veut rassurant. La présence croissante des États-Unis ne menace pas les intérêts des partenaires historiques. Il met en avant les avancées du CAMI dans la récupération de plus de 6700 carrés miniers par l'État. Sankuru Lusambo mise sur ses atouts pour impulser le développement local. 3 jours de forum pour repenser l'avenir de la ville. Objectif, transformer les potentialités en levier concret de croissance. En fin de journal, le maire Louis Manga nous livre les grandes lignes des recommandations issues des travaux. Restez avec nous. À la une, ce matin, remaniement au sommet de l'État, le président de la République, Félix Tshisekedi, a dévoilé ce vendredi la nouvelle composition du gouvernement, toujours conduit par la première ministre Judith Suminois. Ce second gouvernement, baptisé Suminois 2, marque une nouvelle étape dans la conduite de l'exécutif congolais. Si plusieurs ministres conservent leurs fonctions, le chef de l'État a procédé à des ajustements notables intégrant de nouvelles figures dont l'équipe. La nouvelle configuration comprend 6 vice-premiers ministres, 12 ministres d'État, 24 ministres et 5 ministres délégués et 6 vice-ministres. Les grandes lignes de cette nouvelle équipe, dont ces résumés signés Blaise Makassi, rendu par Blaise Ndongala.
Parmi les principales entrées, Adolphe Muzitu prend les rênes du ministère du Budget, Floribert Anzuluni est nommé à l'intégration régionale, Guillaume Ngefa hérite du portefeuille de la justice, tandis que Marie Niangé est chargée de l'environnement. Gilles Mbouy prend la tête du ministère du portefeuille, Micheline Ombaye est désignée au genre famille et enfants, John Banza Lunda est nommé ministre des infrastructures, Grâce Emmy Coutinho devient la ministre de la Jeunesse, alors que Eliezer Tamboué est nommé ministre délégué à la Défense et aux Anciens Combattants. Moïndo Nzangi quitte le développement rural pour l'agriculture. Eve Bazaïba, l'environnement pour les affaires sociales. Guy Luando est parti de l'aménagement du territoire pour le ministère des Relations avec les Parlements. Acacia Bandoubola laisse les affaires foncières et va désormais s'occuper des hydrocarbures. Aimé Bogi, ancien ministre du Budget, est nommé ministre de l'Industrie. Pendant ce temps, Jacquemain Chabani, Jean-Pierre Bemba, Guy Kabombo Mwandiamvita, Daniel Mukoko Samba, Guylaine Niembo, Thérèse Kaikwamba, Raissa Malou, Marc Ekila, Doudou Fouamba, Samuel Roger Kamba, Julien Paloukou, Marie-Thérèse Sambo et Patrick Mouyaya Katemboué gardent leur portefeuille.
Cap sur le sud Kivu, l'insécurité continue de s'aimer l'inquiétude. Jeudi, le village de Kacheke, situé à la frontière entre le territoire de Kabare et Kale, a été le théâtre de violents affrontements entre les rebelles du M23 et le Wazalendo du mouvement pour la défense et la libération du Congo. Le choc a coûté la vie à 4 civils, selon un bilan encore provisoire. Sur place, les conséquences sont déjà palpables. Peur, déplacement et une vie quotidienne bouleversée. René Lintibonera nous livre les détails de cette situation préoccupante.
C'est aux environs de 9h que les combattants du M23 ont lancé leur attaque contre les positions tenues par les Wazalendo du groupe MDLC à Kamakombe dans le territoire des Kabare. Des tirs d'armes lourdes et légères ont été entendus jusque dans l'après-midi. Selon nos sources, la rébellion du M23 cherche à tout prix à mettre hors d'état de nuire ces groupes qu'elle considère comme une menace pour ses intérêts dans la région. Pour matérialiser ses plans et créer une diversion, les combattants du M23 AFC ont ouvert un second front contre les second quartier général du groupe MDLC dirigé par le général autoproclamé Imani Chabani vers Kacheke dans le territoire des Kalehe. Ces mêmes sources évoquent la violence des combats qui ont causé la mort de 4 civils dans la zone ainsi que plusieurs blessés. Vers 14h de ce jeudi heure de Bukavu, les combats se poursuivaient dans une zone communément appelée Chembayo, une entité située à 3 km du centre de Kavumu.
Autre fait marquant de ce jour, une avancée majeure sur le plan sécuritaire, dans la nuit du 6 au 7 août, les FRDC ont frappé fort en capturant Midima Mabanza Ndenzu, alias Mabende, chef du groupe armé Mobondo, tristement connu pour ses exactions dans le territoire de Kenge, province du Kwango. L'annonce a été faite par le porte-parole de l'opération Ngemba dans un communiqué officiel. Thérèse Kankou revient sur cette opération.
Selon l'armée, ce chef milicien s'était récemment reconverti en coupeur de route, s'attaquant violemment aux civils. Dans la nuit du 5 au 6 août 2025, lui et ses hommes ont intercepté un bus de la société classique au niveau des villages Kabuba et Mbangi, le long de la route nationale numéro 1. Ils ont dépouillé les passagers, blessant plusieurs d'entre eux à la machette. Sur ordre du général-major Padiri Moïse Jonas, commandant de la 11e région militaire et des opérations Ngemba, le criminel a été immédiatement transféré ce matin à Kenge, où un procès en foraine sera organisé dans les prochains jours. Le commandement des FRDC appelle toutes les victimes de cette attaque, notamment les passagers présents à bord du bus ciblé, à se présenter pour témoigner et porter plainte contre cet ennemi de la paix. Par ailleurs, l'armée a intensifié les patrouilles de combat le long de la RN1 et dans ses environs afin d'assurer la sécurité des usagers et de prévenir toute tentative de déstabilisation. À l'heure actuelle, la situation est sous contrôle, la circulation est fluide et les activités économiques se poursuivent normalement dans la zone.
À Bunia, dans la province de l'Ituri, une lueur d'espoir. Plus de la moitié des déplacés de Lopa et de Iga Barrière commencent à regagner leur foyer. Ces mouvements de retour s'observent également dans une dizaine d'autres sites presque vidés. Ces dernières semaines, deux semaines après les attaques de la milice Codeco, la situation semble progressivement se stabiliser, notamment grâce au déploiement des forces armées dans la zone. Isaac Remoyope nous apporte les précisions.
Ils avaient fui en masse après l'irruption de la milice Codeco à Lopa et Nizi au nord de Bunia. Aujourd'hui, environ 60% des habitants de Lopa et d'Iga Barrière et d'autres de Nizi sont de retour chez eux. Ces retours s'observent également dans une dizaine de sites qui accueillaient près de 20 000 déplacés, notamment à Linji, Mbudu, Godo, Tungane, Landa ou encore Limani. Ces retours progressifs s'expliquent notamment par la forte présence de l'armée congolaise, les FARDC, déployée en nombre dans la zone. Le président des jeunes de Lopa salue également un changement dans les commandements militaires locaux et une meilleure collaboration entre les nouvelles autorités et la population. Mais sur place, tout n'est pas encore revenu à la normale. Les maisons de commerce ont été entièrement pillées, les activités économiques redémarrent à peine et surtout les conditions de vie restent précaires. Beaucoup de retournés n'ont pas encore accès à leurs champs et la menace des groupes armés continue de planer sur la région. Bunia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Focus sur le secteur minier congolais. L'arrivée des entreprises américaines sur le marché minier de la RDC ne devrait pas inquiéter les investisseurs chinois ni ceux d'autres pays déjà présents. C'est le message rassurant livré par Crispin Mbindoulé, président du conseil d'administration du cadastre minier CAMI, lors d'un point de presse tenu hier à Kinshasa. À cette occasion, il a mis en avant le progrès réalisé par son service, notamment la reprise par l'État de 6733 carrés miniers répartis sur 177 titres entre 2024 et juin 2025. Des résultats qu'il juge encourageants et susceptibles de renforcer la confiance des futurs investisseurs. René Lintimbonera nous propose cet extrait.
Les contrats qu'on a signés, ce n'est pas qu'on va d'abord donner gratuitement aux Américains les périmètres miniers, non. Leurs sociétés respectent la procédure, les codes et les règlements miniers. D'ailleurs, pour votre information, ils se sont présentés au cadastre minier en tant que porte d'entrée du secteur minier et ils ont payé les droits de dépôt, les frais de dépôt. Ils respectent la procédure et bientôt ils vont payer les droits superficiels au prorata. Donc les Américains ne viennent pas remplacer les Chinois, moins encore d'autres exploitants miniers. Et ce n'est pas qu'on vient brader le minerai au Congo et qu'il y a des contrats léonais. Non, ils viennent comme des sociétés, comme toute autre société, comme vous, vous pouvez venir avec votre société au cadastre minier et on va vous octroyer les titres au même titre que les Américains.
Retour à Ituri à Bunia où un accord vient mettre fin à plusieurs mois de tensions. Les notables et autorités coutumières de Baïma Dirumu ont enfin trouvé un terrain d'entente avec GreenTech Energy, l'entreprise qui alimente la ville en électricité. La signature de cet accord intervenu la semaine dernière marque la fin d'un bras de fer autour des attentes des communautés riveraines de la centrale hydroélectrique de Boudana. Parmi les engagements pris, la réalisation des projets à caractère communautaire, comme l'a précisé le chef de la chefferie des Baïma Dirumu, Jean-Claude Loki Dile, nous en dit plus.
L'enjeu, un cahier des charges précis parmi les revendications, la construction d'écoles, l'adduction d'eau potable et surtout une baisse de tarifs de l'électricité au profit des habitants du groupement Tséré, autant de doléances désormais prises en compte selon l'entreprise Alliance Kingoudi, chargée de communication de GreenTech Energy, salue une nouvelle dynamique de collaboration.
Nous avons pris beaucoup de choses en compte, surtout ce qui concerne la construction des écoles, mais aussi le forage, presque dans le parage aussi. Nous avons beaucoup de projets avec l'entité pour aussi leur faire part du bénéfice de production qui se passe au niveau de la centrale qui est dans leur fief.
Cette entente ouvre donc une nouvelle page et pourrait faciliter la mise en œuvre des projets d'amélioration de la desserte électrique de la ville de Bunia. Et du côté de la chefferie, l'espoir renaît. Le chef coutumier David Bainduka reste optimiste sur les retombées à venir pour sa population.
Je demandais à ma population d'observer une collaboration parfaite. Ce projet est au bénéfice de vous, population. À l'époque, les belles écoles ne se retrouvaient qu'à Bunia. Voilà que GreenTech va construire une école où vont étudier vos enfants.
Pour mémoire, la centrale hydroélectrique de Boudana alimente Bunia depuis les années 1940, installée à une dizaine de kilomètres de la ville, dont les travaux de rénovation sont en cours et, en fait, une infrastructure stratégique pour toute la région. Bunia, Jean-Claude Loki. Radio Capi.
Bonne nouvelle pour les habitants de Beni au Nord Kivu. Le prix du ciment gris est en nette baisse. Le sac se vend désormais entre 9,8 et 12 dollars américains contre 13,5 dollars il y a encore quelques mois. Selon l'association des déclarants en douane de Beni, cette baisse est liée à la suppression de certaines perceptions illégales à la frontière des Kassindi de Lubiria, principal point d'entrée des marchandises vers Beni, Butembo et Lubero. Une décision prise par le gouverneur du Nord Kivu, Eugène Kakule Matembela, de l'association des déclarants en douane de Beni, s'en est exprimé au micro de Marc Marofimbo.
La raison la plus essentielle est que, vous savez, depuis un certain moment, je crois deux semaines, le gouvernement provincial avait pris l'option de mettre fin à beaucoup de perceptions illicites qui étaient jadis faites à la frontière douanière de Kassindi. Quand je parle de perception illicite, attendez-vous aux frais déboursés par les opérateurs économiques mais qui n'ont pas de preuves de paiement. À d'autres termes aussi, ça s'appelle tracasserie. Et j'ose croire que les décisions qui ont été prises pour mettre fin à toutes ces perceptions qui devenaient une charge de trop et qui ramenaient le prix du ciment à galoper ne vont plus revenir dans les jours à venir. Ça doit être un comportement normal que nous devons tous accompagner. Dans le cadre des affaires économiques, il ne faudrait pas que ceux-là qui viennent vendre chez nous se sentent lésés à la traversée de la frontière parce que nous avons pris les habitudes de leur prendre l'argent sans justification.
Sport CHAN 2024, la RDC a signé sa première victoire dans cette 8e édition du championnat d'Afrique des Nations. Les Léopards A' se sont imposés 2-0 face au Chipolopolo de la Zambie jeudi au stade de Nyayo de Nairobi lors de la deuxième journée du groupe A. Une victoire qui redonne espoir à la RDC après sa défaite face au Kenya et qui permet aux hommes d'Otis Ngoma de se repositionner dans la course à la qualification. Vanessa Nkongolo nous en dit plus.
Après une première période stérile, les Léopards ont réussi à se réveiller à la seconde mi-temps. D'abord, sur une passe de Jefté Kitambala, la pépite du FC Les Aigles du Congo, Ibrahim Matobo, d'une frappe puissante du pied droit, ouvre les scores à la 51e. 20 minutes après, Oscar Kabuit trouve en profondeur un ballon du deuxième but. L'espoir du TP Mazembe choisit de faire la passe à Osso Moku de Lupopo, qui les place au fond de filet pour les 2-0. Kabuit est content du travail collectif.
On a travaillé l'aspect offensif de l'équipe. Du coup, me retrouver dans la position où je pouvais faire la passe à l'équipe pour l'intérêt de l'équipe, ça allait être important. Voilà, j'ai fait la passe, je suis très content.
Otis Ngoma, sélectionneur des Léopards, dit avoir trouvé la magie aux lacunes de son groupe.
Chaque fois, on avait un souci et aujourd'hui, on a réglé ce souci qui était notre condition physique, qui était notre travail des blocs, qui était aussi de trouver le joueur qui pouvait jouer dans les interlignes. Et surtout, c'est lui qui avait cette capacité de nous asseoir cette défense comme sentinelle, c'était KMB.
Otis Ngoma enregistre ainsi sa première victoire en phase finale du CHAN avec la RDC. Une victoire qui relance la RDC à la troisième place du groupe A avec 3 points derrière les Kenya et le Maroc. Le prochain match de la RDC, ça sera contre l'Angola le 14 août prochain.
Actualité internationale.
En Éthiopie, face à la malnutrition croissante, un médecin sans frontières MSF tire la sonnette d'alarme. Dans un communiqué publié le 6 août, l'ONG s'est dit submergée par l'ampleur de la crise humanitaire dans la région des Gambela, à la frontière avec le Soudan du Sud. Près de 80 000 enfants de moins de 5 ans sont menacés de mort par malnutrition, conséquence directe des coupes dans l'aide humanitaire. MSF dénonce également la précarité alimentaire dans le camp de réfugiés où des rations sont tombées de 600 calories par jour, soit moins de 30% du minimum vital. Dans certains camps, les services de nutrition ont totalement disparu faute des financements. L'ONG redoute en outre une recrudescence du paludisme dans les semaines à venir.
L'invité.
Cap sur le Sankuru où le développement local était au cœur des échanges la semaine dernière à Lusambo. La mairie de la ville a organisé un forum de 3 jours avec pour objectif d'identifier les potentialités capables de stimuler le développement de cette entité administrative. Louis Manga, maire de Lusambo, revient sur les grandes lignes de ses assises. Ils sont traités au téléphone avec Esther Ndalafina.
Bonjour, monsieur Louis Manga. La mairie de la ville de Lusambo a organisé un forum sur le développement de votre entité. Quel est l'objectif poursuivi?
Merci beaucoup, madame. Bonjour. La ville est une unité de développement pour une nation. La ville de Lusambo fait partie des plus anciennes villes de la République démocratique du Congo et ayant aussi brillamment participé dans beaucoup de domaines de ce pays. Malheureusement, n'est pas mise dans les projets de son développement. Mais sinon localement, étant les tenanciers du pouvoir public, j'ai aussi la qualité de l'incitateur du développement de mon entité. J'ai observé, après avoir identifié beaucoup de problèmes qui sont liés au décollage de cette entité, dont le plus majeur serait la vision de l'ensemble de la population, il fallait mettre en place une possibilité à les initier pour arriver enfin d'obtenir ce qu'ils veulent. C'est que la ville de Lusambo soit une ville comparable au reste des villes de la République démocratique du Congo. C'est pourquoi j'ai dû mettre d'abord en place un cadre de communion, de collaboration, de communication. J'ai dû concevoir les atouts, les faiblesses et les opportunités que présente la ville de Lusambo. Nous avons par exemple parlé de l'ambition qui s'oppose avec la mentalité, de l'investissement et du développement, de l'autonomisation des communautés locales. Nous avons aussi parlé des problèmes de l'éducation et de l'économie locale. Il fallait éveiller la population pour que ces considère d'abord en soi lui-même comme étant le tout premier opérateur du développement de son entité.
Qui sont membres de ce cadre de concertation?
Les assistants des universités, les chefs de travaux, les anciens administratifs de cette entité. J'ai aussi dû sélectionner, en tenant compte de leur expérience, en tenant compte de leur maîtrise sur certaines questions, pour mettre en place cette plateforme que nous allons jusque-là essayer de formaliser afin qu'elle puisse commencer à répondre à tous les problèmes de cette entité, surtout les plus liés au domaine de développement.
Après l'analyse des faiblesses, des forces, quels sont les facteurs qui bloquent le développement de la ville de Lusambo?
Le plus grand grand facteur, c'est d'abord l'homme habitant de la ville de Lusambo, de par sa manière de penser, de par son point de vue, de par sa façon de voir les problèmes du développement de son entité. C'est-à-dire, vous avez une population qui rejette tout sur les leaders politiques, qui rejette tout sur les gouverneurs, qui rejette tout sur les maires de la ville, quand bien même c'est leur part aussi des responsabilités. La manière de penser de la population n'arrive pas à être autonome, donc il n'arrive pas à produire, à exploiter ce que l'entité offre. Nous avons par exemple la rivière Sankuru qui nous lie directement avec Kinshasa. Mais vous trouverez que les marchandises qui viennent ne viennent pas au profit de la ville de Lusambo, mais ça vient pour le profit de la ville de Kananga ou la ville de Mbujimayu, alors que c'est nous-mêmes qui devrions être les premiers opérateurs économiques pour devoir se profiter de ces infrastructures naturelles qu'on ne pourrait jamais nous ravir.
Face à ces défis, quelles sont les pistes de solutions pour les transcender?
Que ce cadre devait être permanent parce qu'elle est la toute première, d'ailleurs, depuis l'histoire de la décentralisation jusqu'à aujourd'hui, et que les politiques ne manipulent pas. À la place de manipuler, c'est attendre de leurs électeurs les projets auxquels ils pourront se battre pour retrouver le financement.
Quelles sont les recommandations formulées par les participants?
Les participants ont demandé, bien entendu, comme je venais de dire, que ce cadre reste permanent. Nous avons mis en place une émission locale à téléphone ouvert. N'importe qui puisse contribuer en idées et connaissances sur les domaines que nous avons. Que la mairie de Lusambo puisse faciliter les ONG et les organisations des jeunes, des mamas et des sociétés civiles à avoir tous les restes d'actes de légalisation pour maintenant se lancer dans le voler des demandes de fonds ou des demandes de concours investissement.
Si on veut déclencher le développement de la ville de Lusambo, par où pouvez-vous commencer, monsieur le maire?
Nous sommes entourés par une terre très riche qui ne demande même pas de fertilisants. Donc, s'il fallait booster le développement de Lusambo, il fallait commencer avec l'agriculture. C'est ce que nous pouvons faire sans aucun effort, sans aucun freinage. Et la ville de Lusambo est traversée par la majestueuse rivière Sankuru. Donc, avec la pêche, avec l'agriculture, nous pouvons plus booster le développement de Lusambo sans aucun effort.
Monsieur Louis Manga, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie, madame.
C'était Louis Manga, maire de la ville de Lusambo, qui est revenu sur le forum organisé dans sa ville autour des enjeux de développement local, un échange réalisé par Esther Ndalafina. C'est la fin de ce journal. À la présentation, Gisèle Cage, avec la mise en onde assurée par Pierre Diassinois. Nous vous remercions pour votre fidélité et votre attention. Restez connectés à nos différentes plateformes numériques ainsi qu'à notre site web officiel pour des informations plus détaillées et en temps réel. À très bientôt, toujours sur la même fréquence.